On va parler ensemble durant tout le mois de janvier, on a eu à cœur avec l'équipe pastorale de pouvoir traiter ce thème Dieu est. De pouvoir ensemble partager quels sont les attributs de Dieu et au travers d'une série de trois messages, nous allons partager Dieu est. Voir si vous avez suivi la vidéo, Dieu est fidèle, Dieu est saint, Dieu est amour. Et on va enchaîner une série de trois messages pour les trois dimanches, c'est le dimanche et les deux dimanches qui nous suivent, pour comprendre, saisir ensemble quels sont les attributs de Dieu et comment Dieu, à travers la fidélité, la sainteté et l'amour, se révèle dans notre vie. Comment Dieu parle à nos cœurs et comment les attributs qui sont quelque chose de très lointain sont réellement développés pour que nous puissions les vivre au quotidien. Amen. Alors, je vous invite à être là aujourd'hui, alors si vous êtes déjà là, c'est bien, mais je vous invite aussi à être là la semaine prochaine, encore la semaine d'après, pour vivre un temps ensemble où on va partager sur cette dimension de Dieu est. Et le premier thème qu'on va aborder ensemble, c'est Dieu est fidèle. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Amen. Bon, du coup, je vais prêcher de là-dessus, parce que je crois aussi. Amen. Alors, j'aimerais vous poser cette question que tous les pasteurs posent au début d'année. Est-ce que vous avez pris une bonne résolution? Pas encore? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui prennent des résolutions ici? Hein, il y a quelques-uns quand même? Levez la main ceux qui prennent des résolutions? Ok. Maintenant, levez la main ceux qui tiennent la résolution? Ouais, c'est à peu près toujours la même réponse, hein? La réalité, c'est qu'on prend tous des résolutions et puis nos résolutions au bout de quelques semaines. Elle disparaît parce qu'en fait, ce qu'on pense dans notre tête, c'est qu'entre le 31 et le 1er janvier, il y a une telle différence qu'on pense que nos résolutions vont être différentes. La réalité, c'est que ce sont deux jours équivalents, c'est deux mêmes jours, sauf qu'il y a une année qui passe. C'est tout. Mais on prend des résolutions et puis finalement, on ne tient pas. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer de vous parler de celui qui a pris une résolution sur sa vie. Mais que plus qu'une résolution, il a pris une résolution qui va tenir et qui va accomplir. Ce Dieu est un Dieu fidèle. Lorsqu'il dit des choses, il les accomplit. Lorsqu'il promet des choses, il les accomplit. Lorsqu'il s'engage envers toi, il l'accomplit. Lorsqu'il a quelque chose à cœur pour toi, pour ta vie, il l'accomplit. Amen. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons partager, sur lequel nous voulons partager. Le Dieu qui, quand il fait une promesse, il l'accomplit. Quoi de mieux que commencer l'année 2019 en priant le Dieu qui ne change pas. Qui était le même en 2018 et qui sera le même en 2019. Celui que tu as connu, celui que tu as rencontré à un moment, celui qui a marqué ta vie, c'est toujours le même. Celui qui a changé ta vie, c'est toujours le même. Et même si parfois les circonstances semblent défavorables, même si on a l'impression qu'on ne voit pas les choses comme on a l'impression qu'on voudrait les voir, la réalité c'est que Dieu ne change pas. Amen. On a tenté, et dans la liste que Michel a pris, je crois que Michel avait pu prêcher avec ce chant. Je ne crois pas qu'on chante pour rien, mais je crois qu'on chante pour proclamer la grandeur et la fidélité de notre Dieu. Amen. Amen. J'aimerais vous proposer une définition de la fidélité. Et quand je vois cette définition, je me dis, mais je ne sais pas si moi, personnellement, je rentre dans cette définition. Par contre, je sais que Dieu lui rentre. Cette définition, c'est le dictionnaire qui m'a donné. Ce n'est pas le dictionnaire biblique, hein. C'est un dictionnaire qui s'appelle, c'est la Bible, qui nous dit, ton attachement, le dévouement à quelqu'un reste constant, sur lequel on est sûr de pouvoir compter. Je ne sais pas si c'est défini par le Dieu, ça. Quelqu'un qui ne varie pas dans son attachement à un groupe, dans ses engagements. Quelqu'un qui est attaché à un lieu, qui choisit de préférence à tout autre. Quelqu'un qui ne varie pas dans ses opinions, dans les règles qu'il s'est fixées, qui remplit ses engagements, qui tient ses promesses, qui ne manque pas sa parole. Quelqu'un qui reste conforme à ses propres caractéristiques, qui reste dans la ligne. Quelqu'un qui ne modifie, n'altère en aucune façon la réalité qu'il reproduit ou exprime et les faits qu'il rapporte. Se dit dans l'instrument de mesure dont les indications se répètent lorsqu'on répète une même mesure. Et je vais être impressionné de voir que même Larousse définit la fidélité, non pas comme l'homme l'a défini, mais bien comme la Bible a défini. Pour moi, Dieu remplit tous ces critères-là. Et je me dis, est-ce que moi j'ai rempli? C'est une autre question que nous allons voir ensemble. J'aimerais vous citer ce verset que Michel a cité tout à l'heure et qui pour moi, résume réellement ce que Dieu nous amène à comprendre. La Bible nous dit, car ses paroles sont certaines, si nous mourons avec lui, nous revivrons. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renierons, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Amen. C'est son temps d'amène à ce qui va se passer. Amen. La fidélité, Dieu ne peut pas changer ce qu'il est aujourd'hui. Nous changeons, mais lui ne change pas. Il est le même. Alors, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, dans un premier temps, quelles sont les conceptions erronées de la fidélité. Ensuite, dans un deuxième temps, nous découvrirons quelle est la définition réelle de la fidélité. Comment Dieu a manifesté sa fidélité. Et dans un troisième temps, comment vivre la fidélité de Dieu au quotidien. Ça va? Vous êtes toujours là, ce temps? Alors, nous commençons pour les conceptions erronées que l'on peut avoir de la fidélité de Dieu. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit: Pasteur, je crois que Dieu n'est pas fidèle. Parce qu'il n'a pas répondu à mes besoins. Alors, la première conception erronée, elle n'est pas compliquée. Parce que Dieu, c'est quoi, il doit répondre à mes besoins. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu répond à tous nos besoins? Oui, mais attendez, il a dit qu'il ne nous délaisserait jamais, mais il ne nous abandonnerait pas. Nous n'abandonnons pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour avoir cette réflexion en moi, c'est-à-dire que Dieu, la fidélité de Dieu, il ne se mesure pas à sa réponse à nos besoins. Que dans tous les cas, Dieu est fidèle, même s'il ne répond pas à nos besoins. Vous êtes tous d'accord avec moi? Malheureusement, dans le quotidien, ce n'est pas évident de le faire. Pour qu'on prie. Et est-ce que Dieu, à un moment, nous amène à nous poser la question, est-ce qu'il faut arrêter de prier? Certainement pas. Au contraire, il faut qu'on continue à demander. Mais Dieu ne répond pas toujours à tous nos besoins. Et ce n'est pas pour autant que sa fidélité est remise en question. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu ne se mesure pas à la possibilité de Dieu de répondre à nos besoins. On pense souvent que Dieu doit s'adapter dans notre vie. On pense souvent que Dieu doit venir dans notre vie et dire ben, tiens, tu fais ta vie, puis moi je vais rentrer dans ta vie. La réalité, c'est que Dieu nous amène à découvrir ce que lui veut pour nous, et non pas ce que nous voulons pour nous-mêmes. La fidélité de Dieu nous montre une chose, c'est que lui ne change pas, parce que nous, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on a comme vision qui font parce qu'on a demandé? Dieu ne change pas. Comprendre la fidélité de Dieu, c'est accepter que sa réponse soit celle que lui a choisie, et non pas la nôtre. La fidélité de Dieu, elle vient du mot qui est rattaché à la foi, elle consiste à garder la foi dans une personne. J'ai trouvé cet exemple en tête. Vous connaissez Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel? Ouais. Vous savez quand le Shadrach, Meshach et Abednego vont être emmenés dans la fournaise ardente? Pourquoi ils vont être emmenés dans la fournaise ardente? Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant Nebuchadnezzar. Et alors qu'ils sont devant le roi, le roi leur dit: vous allez vous prosterner devant la statue. Et ils vont dire: pourquoi est-ce qu'ils vont être toujours impliqués? Dans Daniel 3, 18, il va vous dire, les Shadrach, Meshach et Abednego vont vous dire: on sait que Dieu peut nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, sache bien qu'on croit que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne concernerons pas devant la statue d'homme que tu as fait ériger. Même s'il ne le fait pas. On est prêt à dire ce moment, même si tu ne le réponds pas, je vais te louer pour ta fidélité. J'aimerais vous dire que ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si quand tout va bien. Mais c'est difficile quand on prend en plus profond l'épreuve. De dire que non, mais même si tu ne réponds pas là, à l'instant présent, je veux considérer que ta fidélité, elle, ne change pas. Je veux considérer que tu prends soin de moi. D'ailleurs, remarquez avec moi ce qui s'est passé à la suite. C'est qu'à l'ordre que la fournaise ardente a eu lieu, les trois hommes qui se sont retrouvés au milieu, c'est en trois? Il y en a deux, quatre. Dieu ne l'aurait-il pas pris qu'il y ait la fournaise? Dieu n'aurait pas pris qu'il éteint le chauffage? Mais non, cet exemple nous montre qu'en réalité, ils ont été dans les fournaises ardentes. Mais dans cette fournaise ardente, Dieu a montré sa fidélité en envoyant Christ au milieu d'eux. Dieu montre sa fidélité en étant avec toi dans tes épreuves. Dieu montre sa fidélité en marchant à tes côtés. Et non pas en te sortant de tes épreuves. Même si je bénis Dieu que Dieu nous sort de nos épreuves. Amen.
Amen.
Comment ça va un peu mal? La réalité, c'est que Dieu nous attend dans une démarche de foi. Au milieu de nos épreuves, dans notre fidélité, ne dépend pas. Dieu ne dépend pas en fonction de nos besoins. Et c'est parce qu'on a lu ensemble, même s'il ne le fait pas. Je veux aussi vous amener à cette pensée que Dieu est fidèle parce que vous êtes fidèle dans nos actions. Comprenez bien ce qui m'a dit, c'est une conception erronée, du coup, forcément, c'est faux. Est-ce que c'est parce qu'il va venir régulièrement à l'église que Dieu va être plus fidèle? Il est fidèle naturellement, mais il faut quand même de l'épargne. Parce qu'il a beaucoup du bien, amen. On fait du bien ici. Si Dieu se met fidèle avec moi, c'est parce que je suis fidèle dans ce que je fais. Vous savez, on a souvent attribué la réussite ou le succès à la fidélité des gens. Dieu nous demande d'être fidèle dans notre engagement, c'est une réalité. Mais le succès ne dépend pas du fait qu'on fasse des bonnes choses ou des mauvaises choses. Dieu prend soin de nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai entendu le faire inverse, la conclusion inverse. Qui me dit, un jour, j'ai entendu cette phrase qui m'a décidé à quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir des enfants, on lui a dit, mais tu vois, tu n'es pas béni parce que tu n'as pas d'enfants. Vous avez vu à quel point on peut détruire les gens. Mais non, je n'ai pas dit ça dans cette enfance-là, mais si, tu as dit ça dans cette enfance. Parce que la réalité, c'est que tu utilises ce genre de flèche qui condamne les gens. Ça veut dire que derrière, tu penses que la fidélité de Dieu dépend de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Mais la fidélité de Dieu, elle ne change pas. Je vais prendre un exemple. Il prend la bouteille d'eau. Et si ça, c'est la fidélité de Dieu, et qu'il la pose ici, que même moi, je suis ici et je l'éloigne, est-ce que la bouteille d'eau, elle a fermé? Est-ce que la bouteille, elle est moins bouteille d'eau? Est-ce qu'il y a ce qui est à l'intérieur va moins de 20 euros? Mais cette bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau. Parce que c'est dans sa nature d'être une bouteille d'eau. De la même façon, Dieu est fidèle parce que c'est dans sa nature, dans son essence. Et qu'à partir du moment où tu vas saisir la fidélité de Dieu par la foi, c'est là qu'il va pouvoir te donner le télé. Alors j'en profite pour boire un coup. Ça va? Comprenons bien ensemble que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que tu vas faire ou ce que tu ne vas pas faire. La fidélité est toujours la même. Qui m'amène aussi à comprendre que, vous savez, quand le fils prodigue s'en va et qu'il revient vers son père le fils prodigue, son père est venu de loin, son père, à cause de toutes les erreurs du fils. Mais il reste toujours son père et l'amour. Et la Bible nous montre cet exemple extraordinaire de l'amour de Dieu envers nous. Au moment où son père va accueillir son fils à bras ouverts. Parce que son père, quel que son père, malgré les actualités de son fils, j'aimerais vous dire aussi loin que vous pensez avoir été. Peut-être aussi mauvaise que l'année 2018 ait pu être. Peut-être aussi loin mon péché, je pourrais permettre de dire aussi loin mon péché qu'il puisse avoir été. Dieu lui a chance. Il y a toujours une possibilité de revenir. Ce n'est pas interdit de revenir. Et ce serait dommage de te priver de la fidélité de Dieu. Il y a un peu de tour, on y va, on avance, et on va saisir la fidélité de Dieu. J'aimerais vous dire que le texte de Matthieu 5:29 nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il accorde, la Bible, je ne sais pas si vous dit, ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de Dieu, de votre Père, des enfants de votre Père Céleste, car en lui, il fait lui son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et encore, tu vas pleuvoir à ceux qui sont justes, comme aux injustes. On pourrait dire, mais Dieu, il est juste avec nous. Moi, je fais plein d'efforts. Et regarde les autres. Moi, je suis fidèle. Je suis fidèle dans ce que je donne. Je suis fidèle dans ce que je fais. Regarde les autres. Mais ne nous appartient pas de juger ce que Dieu, lui, a jugé vis-à-vis des autres. Notre rôle à nous, c'est le plus difficile. Il est de rester fidèle malgré tout. Amen. C'est celui qui sera fidèle jusqu'à la fin. J'aimerais vous encourager de vous garder espoir. Vous pouvez toujours tourner les yeux vers la fidélité de Dieu. Amen. Alors, deux conceptions erronées vont nous amener à comprendre que finalement, la fidélité de Dieu, ce n'est pas en faisant quelque chose qu'on peut l'obtenir. Ce n'est pas en ayant des besoins. Et c'est pas... Moi, des fois, ça m'est arrivé de me dire, mon Seigneur, là, tu vois, je suis vraiment dans la difficulté. Avant, je n'étais pas trop dans la difficulté. Là, je suis vraiment dans la difficulté. Donc, tu dois répondre. La réalité, c'est que Dieu prend soin de nous à chaque instant. Il veille sur nous. Est-ce que ça vous a déjà envie de réfléchir ce moment où vous prenez votre voiture et vous imaginez tous les accidents que vous évitez? Moi, ça m'est déjà arrivé. Surtout quand il vient juste de prendre une voiture juste à côté de toi pour freiner au dernier moment. Et là, dans ta tête, tu te dis, heureusement que Dieu veille sur nous. Hein, je vais te dire que Dieu veille sur toi depuis que tu as pris ta voiture. C'est vrai? Et même avant, même. Dieu veille sur nous, malgré tout, malgré tes réflexes, malgré tes faiblesses. Et croire qu'on peut gagner la fidélité, c'est une conception erronée. Parce que la fidélité, on ne le mérite pas. C'est une grâce. Amen. Ça m'amène à la deuxième partie, mon deuxième point, découvrir la fidélité de Dieu. Là où on va découvrir la fidélité de Dieu d'une manière assez remarquable, c'est quand Moïse va se retrouver devant le grand Josué. Est-ce que quelqu'un sait dans quel texte il se trouve? Exode. Oui, dans Exode. Alors, si on prend le texte de Exode 34:5, Dieu va parler à Moïse d'une manière particulière. Et il va lui dire, Exode 34:5, l'Éternel descendit dans une nuit. Fut un homme auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compassif, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ça, c'est la foi où Moïse va se trouver devant Dieu et la notion de fidélité va être apportée d'une manière tellement marquée, tellement impressionnante. C'est que la Bible nous dit ici qu'il est riche en bonté, et on le cite souvent au-dessus, riche en fidélité. C'est quelque chose qui fait partie de sa nature. Le nom qui est utilisé ici, il suggère l'idée de fermeté, de véracité, de fidélité, de vérité, de sûreté, de stabilité. Il est digne de confiance. Dieu, le Dieu fidèle, est digne de notre foi et de son alliance. Il accomplit ses paroles, mais il fait dans le silence qu'il nous dit. Dans le sens où, si Dieu prend un engagement et que nous, finalement, on se laisse une tâche de notre engagement, Dieu lui a gardé son engagement. Mais nous ne pouvons pas être au bénéfice de ce qu'il a promis, sauf si on revient vers lui. C'est aussi simple que ça. Parfois, on a tous vu en disant si tu n'as pas été fidèle dans ce que tu m'avais promis, mais c'est même si tu parles de moi. Et je nous engage à revenir. Quand Moïse va entendre cette description, il va se couper tellement la grandeur de Dieu est énorme. La Bible nous présente la fidélité de Dieu comme aucun homme ne pourrait la vivre. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des épreuves. Elle va jusqu'au bout de ce qu'elle promet. Cette fidélité, elle est capable, alors même que nous nous chutons, d'aller encore nous chercher. Mais c'est aussi cette fidélité qui est capable de nous dire « Eh, tout à fait, on attention au temps. Parce que là, tu es en train de partir dans quelque chose qui va t'éliminer ma fidélité. Et je ne voudrais pas que tu passes à côté de ce que j'ai prévu pour toi. Parce que la fidélité, elle va dans les deux sens, n'est-ce pas? La fidélité, elle va nous amener à comprendre que Dieu nous aime tellement qu'il va nous dire des choses. Si on est prêt, c'est peut-être que Dieu va nous dire. Amen. Cette fidélité est si grande qu'en réalité, on ne le mérite pas. Alors, Dieu a fait quelque chose juste d'extraordinaire. Et vous savez que l'exemple type, le paroxysme de la fidélité, c'est quand Dieu va envoyer son fils Jésus-Christ pour nous. Le témoin fidèle. Christ, mort sur la croix. Pour nous, la fidélité de Dieu, elle est manifestée en Christ en réalité. L'exemple type de ce qu'on peut découvrir de la fidélité de Dieu, ce n'est pas de répondre à des besoins matériels, même si Dieu le fait. C'est pas de répondre à nos envies, mais la fidélité de Dieu, c'est de répondre à nos besoins intérieurs. Amen. Et comment il peut répondre à nos besoins intérieurs? Il va nous envoyer celui qu'on appelle le fidèle, pour nous donner un modèle, pour nous donner une façon d'agir. Il va nous montrer, il va démontrer que Dieu lui-même est fidèle parfaitement en disant quelqu'un si loin qu'il permet. Et moi, j'ai la solution. J'ai quand même donné mon fils. Ce n'est pas le plus bel acte de fidélité que d'offrir son fils. Moi, je réfléchis souvent, je me dis, moi j'ai trois enfants. Et je pense à mon grand et je me dis, c'est un jour que je vais offrir mon fils pour des gens qui ne le méritent pas. Parce que, bon, déjà pour des gens qui le méritent, je ne sais pas. Voilà, pour des gens qui ne le méritent pas, je ne sais pas si j'aurai cette capacité. Mais je crois que Dieu a une capacité qui nous dépasse, un amour qui nous dépasse. La fidélité de Dieu ne peut pas être comparée à une fidélité humaine. La fidélité de Dieu ne peut pas être comparée à ce que tu penses être juste comme la fidélité. La fidélité de Dieu, elle va dépasser tout ce qu'on peut entendre, penser ou imaginer. Parce qu'elle va aller jusqu'à donner son fils pour toi, pour moi, pour nous. Et alors qu'on a pris ce temps de sincère ensemble, qu'on a partagé le pain et le vin, il était bon de se rappeler la fidélité de Dieu en Christ. La fidélité de Dieu va trouver son plein accomplissement dans le sacrifice de la croix par amour pour son peuple. Il a prouvé sa fidélité simplement de son fils. Et j'aimerais aller plus loin aussi. L'exemple type de la fidélité, c'est Christ qui nous montre aussi en la subir. Christ a été fidèle en obéissant jusqu'à la mort et Christ a été fidèle à son engagement en venant sur la terre. Il nous donne aussi cette possibilité de dire oui, il y a une possibilité d'être fidèle. Amen. C'est pas pour rien que les chrétiens sont un peu les fidèles. Regardez ce texte que je vous affiche ici. Il nous dit, Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ, il est comme fils à la tête de sa maison. Alors, sa maison, c'est vous. Et vous, pourvu pardon, que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté en vie. Ce texte est dans Hébreux 3. Christ a été fidèle en donnant sa vie pour nous. Mais en plus de ça, il est encore fidèle en disant que je vous choisis comme étant des gens que Dieu veut considérer comme mes fidèles. Ce n'est pas pour bien vous dire justement qu'on a appelé les fidèles. Et que bien souvent on l'a utilisé à tort, mais qu'on a appelé ceux qui ne croient pas les gens fidèles. Est-ce que c'est parce qu'ils ne viennent pas à l'église? Est-ce que c'est parce qu'ils ne font pas les bonnes choses? Non, les gens fidèles, on les considère infidèles parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce que fidélité et foi vont de pair. C'est le même mot qui est utilisé avec différents aspects. Et je crois que Dieu nous appelle durant toutes ces années qui vont démarrer à devenir davantage fidèles. Amen. À marcher davantage dans ses voies, à entendre davantage sa voix, à connaître davantage son cœur, comme on a entendu dans la parole qui a été donnée, à écouter sa voix et marcher et être dirigé par la nuit, être dirigé par ce que Dieu veut nous amener à vivre. Jésus, le fidèle, est le chemin qui nous permet d'expérimenter pleinement la fidélité de Dieu. Amen. Alors, tout ce que ça va avoir comme impact pour notre vie, on pourrait dire, évidemment, Jésus, c'est vrai qu'il est parfaitement fidèle, il a tout respecté. C'est vrai que Dieu est fidèle et on l'a fait, ça fait partie de son essence. Mais moi, aujourd'hui, si je fais le bilan de l'année 2018, est-ce que j'ai été fidèle? Si je fais le bilan de ma façon de vivre ma foi, est-ce que j'ai été fidèle? Alors on pourrait passer 3 heures à faire une introspection qui va devenir une introspection maladie. Ou on pourrait simplement se mettre à Dieu et dire Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas toujours été fidèle. Mais ce matin, je prends l'engagement de marcher dans la fidélité. Et ça veut dire, des fois, je n'y arriverai pas. Mais je sais que tu m'as donné ton fils pour me montrer l'exemple et pour me dire que c'est possible de marcher dans la fidélité de Dieu. Amen. Ça m'amène à mon troisième point. Comment vivre la fidélité de Dieu au quotidien? La Bible nous dit dans Romains 4, verset 3, que dit l'Écriture? Abraham une confiance en Dieu, et Dieu, portant sa foi à son crédit, le déclare juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire. Et non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qu'il lui a dit. Si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, il place sa confiance en Dieu, qui déclare juste le pécheur, Dieu le déclare juste, en portant sa foi à son crédit. Durant toute l'année, vous allez, et on va être ensemble en privé, mais on refuse de vous demander. Et la seule façon d'expérimenter la fidélité de Dieu au quotidien va être simplement de placer notre foi, notre confiance, à chaque instant, dans celui qui est fidèle. Je ne suis pas, inventé un message très compliqué. Mais placer sa confiance en Dieu quand tout va bien, c'est facile. Placer sa confiance en Dieu quand on est bien les premiers, c'est bien plus compliqué. Mais je crois que ce qui a déterminé que Abraham a été déclaré juste, c'est parce qu'il a placé sa foi en Dieu. Il a placé sa foi dans celui qui était capable d'agir dans le fidèle. Il avait vu que Dieu était fidèle. Et encore ce matin, il croit que Dieu est capable de se démontrer à toi par sa fidélité. Et qui a même fait qu'on a expérimenté la fidélité de Dieu. Amen. Alors, si tu n'as pas levé la main, tu vas voir quelqu'un qui a levé la main. Après, pas tout de suite. Et tu peux lui demander comment Dieu a-t-il exprimé sa fidélité envers toi. Et je crois que même si Dieu a expérimenté, Dieu a montré sa fidélité, il n'empêche que tous les jours on a besoin de Dieu Seigneur. Ce matin, alors je vais de placer ma confiance en toi, parce que je sais que tu vas manifester ta fidélité envers moi. Quelqu'un a dit ce texte, enfin quelqu'un a dit cette citation, pardon, la foi procède de la fidélité de Dieu et aboutit à la fidélité du peuple de Dieu. La foi procède de la fidélité de Dieu et aboutit à la fidélité du peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça nous amène à comprendre? Simplement, c'est que la foi, c'est de mettre la foi en action. C'est comme si tu allais prendre la bouteille dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait référence à la fidélité de Dieu, et la foi en réalité, elle va te dire, ok, je suis tout éloigné, je suis peut-être dans les difficultés, je suis peut-être dans les épreuves, mais la foi, ça va être de dire, ok, ben, j'ai juste à saisir, j'ai juste à aller chercher ma bouteille. C'est juste aller chercher la fidélité de Dieu. Ce n'est pas ça qui va déterminer si Dieu va déverser sa fidélité. Non, ce que Dieu te demande, c'est simplement toi de faire une part de toi. Dieu se fait faire du reste. Parce qu'il y a une fidélité. Donc quand tu vas aller chercher sa fidélité, tu vas découvrir sa fidélité. Amen. Oui, mais comment ça répond à mes besoins au quotidien? Comment ça répond en réalité à mon manque d'argent à la fin du mois? Comment ça répond à mes enfants qui sont partis? Comment ça répond à mes enfants qui ne sont pas encore sauvés? Comment tout ce que tu dis répond? Parce que pour l'instant, la fidélité de Dieu, je ne la vois pas. Et je crois que c'est sûr qu'à partir du moment où tu vas faire le plein de Dieu, Dieu va te remplir de sa fidélité. Comment il va faire? La Bible nous parle du Saint-Esprit qui va nous inonder. Qui est le consolateur, qui va nous consoler, qui va mettre en nous cette paix, qui va te dire, mais ne t'inquiète pas, je suis. Je gère ton fils qui a converti. Je gère la fin du mois qui est compliquée. Toi, place ta foi en moi et tu vas découvrir ma fidélité. Je gère. Je sais que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? Est-ce que tu es prêt à lui dire, ok, si tu n'es pas tout à fait prêt, dis-toi celui qui vient. La fidélité de Dieu est accessible par la foi. Amen. Et il y a ce texte de Galates 1:20 qui m'a souvent interpellé, qui nous dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort, à ma place. Pourquoi vous parlez de ce texte? Tout à l'heure, je vous disais que Jésus est le témoin fidèle. Celui qui est fidèle dans son essence, dans sa nature. Alors si celui qui est fidèle par sa nature habite en moi, ne va-t-il pas devenir fidèle moi aussi? Ne va-t-il pas manifester les mêmes caractéristiques? Ne sommes-nous pas appelés à manifester le caractère évident qui est le plus au quotidien? Ne sommes-nous pas appelés des chrétiens? Notre traduction nous dit des chrétiens. Alors, plus Christ va habiter en nous, plus Christ va demeurer en nous, plus tu vas t'approcher de lui, plus tu vas connaître et placer ta confiance en lui, plus Christ va t'aider à vivre quotidiennement les épreuves à travers la foi dans le Fils de Dieu, celui qui est fidèle. Amen. Être fidèle, c'est placer sa confiance en nous, en Dieu, pardon. Hébreux 10, 22 nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aimerais peut-être simplement commencer l'année en te disant que Dieu est ta parole. Que Dieu est fidèle. Et que dans l'année 2019, Dieu sera fidèle encore. Amen. Ça change un peu. Alors ne désespère pas. Prends courage. Lève-toi. Approche-toi. Tu me dis que tu m'en viens sur le bord de la route. Ton maman a jeté son manteau. Tu l'as vu et s'approcher de Jésus. Pour expérimenter simplement la guérison. Maintenant. Jette tout ce qui est en arrière, jette tout ce qui veut faire en arrière, lève-toi, approche-toi de Dieu, viens découvrir la fidélité de Dieu. Je ne dis pas que tes problèmes vont s'arrêter demain, je dis juste que Dieu va te donner la force de traverser tes problèmes. Parce que la fidélité de Dieu, elle, ne s'arrête pas à les manifester envers nous. J'aimerais conclure. Vous êtes toujours avec moi? J'aimerais conclure en vous disant que la fidélité de Dieu se manifeste par la foi en cette fidélité. En Dieu. Et quand tu places ta confiance en Dieu, alors il se passe des choses extraordinaires. Quelques points pour terminer. Et vous avez mis le texte entre parenthèses, alors je vais vous donner des devoirs. Ça, c'est mon côté propre qui sort. Okay? Je vais vous donner des devoirs durant cette semaine. Il y a des textes qui sont écrits les 1, 2, 3, 4. Et je vous encourage durant toute la semaine, chaque jour, à aller lire ce texte. Parce que ce texte nous parle de les conséquences de placer ta foi en Dieu. La première chose, on voit ensemble, c'est que quand tu places ta confiance en Dieu, tu expérimentes la joie de la présence de Dieu. La Bible nous dit, Ésaïe 25, 9, en ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Et je vous invite à lire tout ce qu'il y a avant et après qui nous encourage. Le deuxième point pour la conclusion, c'est que quand tu places ta confiance en Dieu, tu dors. Vous savez que le manque de ce siècle, c'est de ne pas dormir. Il y en a qui ne dorment pas bien ici. Alors pourquoi on ne dort pas bien à cause de notre physique? C'est des choses qui arrivent. Dieu prend soin de nous aussi. Mais pourquoi on ne dort pas bien? Parce que dans la tête, ça tourne dans tous les sens. Alors voilà ce que dit la Bible. Psaume 4, 6. Offrez des sacrifices conformes à la loi, confiez-vous en l'Éternel. Et ils sont nombreux et ceux qui demandent d'où nous viendra donc le bonheur. Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée, qui met dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais dans le cœur, que la moisson abonde par leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors. Aussitôt, grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. La seule condition de dormir en paix, c'est placer sa confiance en Dieu et en sa fidélité. Amen. Un point suivant, ça vous arrive d'avoir peur? Là oui. Des fois, j'ai peur pour ce qui va se passer après, pour mes enfants. Des fois, j'ai peur pour tout. On peut avoir peur. La Bible nous dit, le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui. Je n'ai pas peur, que pourrait me faire de sa confiance en lui. Je ne dis pas pour vous, ça me paraît un texte tellement simple, mais combien encourageant. Et je termine. Louange au Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, au milieu des peuples qui célébraient en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'au ciel et ta fidélité jusqu'au nuit. J'aimerais qu'on puisse peut-être reprendre avec l'équipe ce dernier chant et qu'on puisse le chant qu'on a chanté sur ta fidélité. C'est possible, monsieur? Oui. Et qu'on puisse. Prendre peut-être une position spirituelle ce matin. Vous savez, on commence une nouvelle année. Il va y avoir des moments faciles et des moments difficiles. Mais si on prenait ce matin la décision de dire Seigneur, je veux placer ma confiance dans le Dieu fidèle en tout temps, je crois que ça peut être déjà un bon point de départ pour cette année. Je crois même que c'est plus proche de Seigneur.